Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, c'est vendredi, c'est Europe 1 et on espère que vous allez bien avec dans le viseur un joli week-end rythmé par des visites de musées, de châteaux ou de sites plus confidentiels mais tout aussi riches d'histoire.
Des visites tout près de chez vous, les journées du patrimoine, Julien, sont une nouvelle occasion de se rappeler combien notre territoire recèle de trésors et des trésors souvent en péril. Depuis 4 ans, avec sa mission patrimoine, il se lance à la rescousse des sites qui menacent de s'effondrer ou de disparaître. Nous serons avec Stéphane Bern dans une dizaine de minutes.
Et puis juste après, de la musique dans la prescription culture. Stéphanie Loire nous présentera l'une des révélations musicales de cette rentrée. Elle nous vient de Bruxelles et s'appelle Ljubljana. Retenez bien son nom, on n'a pas fini d'en parler. Elle s'appelle Anissa Haddadi et nous vient de Montbéliard, je crois. C'est la météo.
Un peu, ouais. C'est vrai que ça fait partie de mon parcours. Bien joué, Julien.
Attention au brouillard ce matin.
Oui, avec toute l'humidité accumulée ces derniers jours, ce matin, nous avons donc pas mal de nuages bas, de brouillard qui peuvent gêner la circulation. Soyez très prudents. Sur le massif central, on a quelques petites averses possibles ce matin. Au bord de la Méditerranée et sur les Caps Corse, c'est le vent d'ouest qui se lève et qui souffle jusqu'à 70 km/h. Dans l'après-midi, sur les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est, le Lyonnais, la Provence, les Alpes, l'Occitanie, donc sur une grande partie du pays, le soleil va briller généreusement avec quasi aucun nuage dans le ciel. C'est vraiment une très belle journée. C'est juste à l'ouest que ça se passe un petit peu moins bien parce que nous avons une nouvelle dégradation qui arrive pour ce week-end. Elle arrive par l'Atlantique et donc il y a un peu de nuages entre la Bretagne et la Gironde avec quelques petites gouttes sur le Finistère. 10 degrés à Metz, 14 à Paris, 17 à La Rochelle, 24 pour Ajaccio, ça c'est ce matin, cet après-midi. 21 degrés à Quimper et Saint-Etienne, 22 à Lille, 23 à Paris et 27 pour Marseille.
24 à Ajaccio ce matin.
Oui, là tout de suite,
mal, hein.
À 4h. Hein.
Ah oui.
Ouais.
Bah. Merci beaucoup, Anissa
Haddadi. Ça vous la
coupe,
hein.
Oui, absolument, je ne sais plus quoi dire. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, votre journal, 5h30.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
C'est le moment que redoutaient les parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. Le témoignage à la barre des enquêteurs qui ont fait les premières constatations le soir de l'attaque. Récit à suivre. Un plan inédit pour les chômeurs de longue durée. Ils sont 1,5 million en France. Le gouvernement va financer les entreprises qui acceptent de les former directement. Le coup d'envoi ce vendredi des célébrations du TGV qui fête ses 40 ans ce mois-ci. Un bijou technologique et une certaine idée du savoir-faire français. Première cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. Près de 2 ans après l'énorme incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, une nouvelle mise en examen vise la société. Elle est poursuivie pour atteinte à l'environnement. Et puis la suite de la rentrée littéraire est déjà une première indication sur les futurs grands prix. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Il n'y avait pas un seul bruit, la seule chose que l'on pouvait entendre, c'est les portables des victimes qui sonnaient. Le témoignage d'un policier au procès des attentats du 13 novembre. Hier, la cour d'assises spéciale de Paris a entendu ses enquêteurs, et pas n'importe lesquels, ceux venus faire les premières constatations sur les scènes de crime. Le parvis du Stade de France d'abord, les terrasses des cafés parisiens ensuite. 6 ans après, ce qu'ils ont vu ce soir-là reste gravé dans leur mémoire. Gladys Lafitte.
Ce n'était pas une vraie scène de crime, mais une scène de guerre, s'est étranglé un enquêteur. Il a lui-même fait les constatations au Carillon et au Petit Cambodge, identifié les 13 victimes, s'est d'ailleurs trompé une fois. À la barre, il s'est excusé de cette erreur et dans la salle, des parties civiles ont hoché la tête comme pour le pardonner. Il est rare d'entendre un policier témoigner avec autant d'émotion et assumer la sidération qu'il a saisie sur place. Et pour cause, au milieu de ce qu'il décrit comme un enchevêtrement de corps, il comptabilise 121 douilles. 4 chargeurs de Kalachnikov ont été vidés ici en 2 minutes 30. Un autre policier, la gorge nouée, a diffusé 2 vidéos de l'attaque à la Bonne Bière dans un silence absolu. 56 secondes de violence extrême, sans son, de tirs et de personnes qui s'écroulent. Le policier identifie 4 victimes sur place. Le 5e jeune homme décédé sera identifié plus tard. Il s'appelait Nicolas, précise l'enquêteur, la voix remplie de larmes.
Gladys Lafitte, la cour doit se pencher aujourd'hui sur l'attaque du Bataclan.
Le gouvernement veut en finir avec le chômage de longue durée et il a un plan pour ça.
Elisabeth Borne en dévoile les grandes lignes ce matin chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. La ministre du Travail veut inciter les entreprises à former les chômeurs de longue durée directement sur le lieu de travail. Et pour ce faire, l'État est prêt à mettre la main à la poche. La mesure concerne potentiellement 1,5 million de demandeurs d'emploi. L'idée était défendue par la CGPME et son président François Asselin ne peut être que satisfait.
Vous vous avez aujourd'hui des entreprises et beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs qui n'arrivent pas à trouver les compétences dont elles ont cruellement besoin. Eh bien, ces demandeurs d'emploi, plutôt que de les mettre en formation à l'extérieur de l'entreprise, mettons-les dans les entreprises qui ont besoin de ces compétences et adaptons la formation à la personne et à son milieu professionnel, donc à l'entreprise, pour tout simplement déboucher sur une qualification qui, normalement, doit lui permettre d'accéder à un contrat à durée indéterminée. Dans les entreprises, c'est pas compliqué. On a besoin de ces compétences, on les trouve pas. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les gens qui ont envie de travailler. Eh bien, si vous avez envie de travailler, que vous n'avez pas de qualification, eh bien, vous venez dans l'entreprise, on va vous donner cette qualification à l'appui d'une formation qui va vous permettre d'accéder à un vrai emploi. C'est ça l'enjeu.
François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, il répondait à Océane Théard. Elle s'estimait oubliée par le Ségur de la Santé. Les sages-femmes seront augmentées d'environ 100 euros bruts par mois dès janvier prochain. Hausse de salaire qui sera accompagnée d'une prime de 100 euros net, indique le ministère de la Santé.
40 ans, ça se fête. La SNCF lance les célébrations de son train fétiche, le TGV.
Le train à grande vitesse, construit sous Valéry Giscard d'Estaing et inauguré le 22 septembre 1981 par François Mitterrand. Il paraît qu'il ne faut pas fêter son anniversaire en avance, mais la SNCF n'a pas voulu attendre. Elle ouvre effectivement les festivités dès aujourd'hui, Gare de Lyon. Cela servira aussi de prétexte pour présenter la maquette grandeur nature du TGV du futur, le TGV-M. Tout cela en présence d'Emmanuel Macron, mais que vient-il faire là, Jacques Seret ?
Bonjour. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Emmanuel Macron veut marcher dans les pas de Georges Pompidou, avance son entourage. Pompidou a lancé le TGV. Macron, lui aussi, veut des grands projets. Dans quelques semaines, il dévoilera son ambition pour la France de 2030. Ce matin, il lèvera le voile sur une maquette grandeur nature, un prototype de 8 mètres de long, celui du TGV du futur, le TGV-M. Un grand projet industriel sur le devant de la scène, au lendemain de la rupture du contrat du siècle pour la vente de sous-marins à l'Australie, sur le quai de la gare de Lyon. Emmanuel Macron pourra savourer son plaisir. Selon nos informations, le chef de l'État n'hésitera pas à insister dans son discours sur l'imaginaire français que revêt un tel projet, sur la continuité présidentielle de Pompidou jusqu'à lui, sur cette France qui rêve en grand. Un certain romantisme, une déclaration d'amour de la France à ses chemins de fer. Mais l'Élysée ne précise pas si pour conduire le train du futur, les cheminots auront toujours besoin d'un régime spécial de retraite. La question n'est pas à l'ordre du jour.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1.
Près de 2 ans après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, l'entreprise est sous le coup d'une nouvelle mise en examen.
La justice soupçonne l'incendie et ses conséquences d'être à l'origine d'une pollution des eaux de la Seine. Selon les associations de l'environnement, des relevés d'analyse montrent une élévation très importante de la toxicité. C'est un risque pour les poissons, mais aussi un risque potentiellement pour l'homme. Une mise en examen pour atteinte à l'environnement qui satisfait Dominique Vallès, avocate des parties civiles dans ce dossier.
Ça veut dire surtout qu'on commence à mesurer l'impact de cette catastrophe environnementale et sanitaire majeure dont on ignore encore l'étendue et les conséquences, puisque au bout de 2 ans, on arrive à mettre en évidence le fait que les eaux sont également concernées. Il y a des analyses en cours, il y a des analyses qui ont été rendues, il y a des compléments d'analyse qui sont demandés. Donc on arrive à comprendre qu'effectivement, le taux de toxicité et d'impact sur la santé également, et sur l'environnement surtout, est important. C'est un soulagement, mais elles ont bien conscience, les parties pour lesquelles j'interviens, que la procédure va être longue. Et donc c'est un travail logique d'instruction et indispensable pour mesurer la responsabilité, la culpabilité de la société Lubrizol dans ce dossier.
Maître Dominique Vallès avec Caroline Baudry.
On en vient à la crise sanitaire et cette bonne nouvelle, la Martinique s'apprête à assouplir le confinement.
Oui, ça se fera par phase. En tout cas, dès lundi, les Martiniquais pourront sortir dans un rayon de 10 km autour de leur domicile. En revanche, le couvre-feu entre 19h et 5h du matin reste maintenu. Interdiction de sortir, sauf motif impérieux. Les restaurants et les salles de sport devront attendre le 22 septembre pour ouvrir, mais le pass sanitaire sera obligatoire.
La rentrée littéraire suit son cours et l'on a déjà une petite idée des romans qui seront distingués cette année.
Oui, mais avant d'être primé, que ce soit au Goncourt, au Femina ou encore au Renaudot, il faut déjà être sélectionné. C'est encore une histoire de liste finalement. Il y a les incontournables comme Christine Angot, mais il y a aussi des auteurs que l'on n'attendait pas, Nicolas Caro.
Il y a ceux qu'on attendait sur les listes et sans surprise on retrouve Philippe Jaénada dans la première sélection du Goncourt, Christine Angot aussi qui cumule avec le Femina et le Médicis. Quant à Amélie Nothomb, elle court pour le Renaudot. Jusque-là, tout est normal. Les surprises, ce sont les jeunes voix qui trustent les sélections. Abel Quentin, par exemple, pour le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire, est sur la ligne de départ pour les trois Grands Prix, Goncourt, Renaudot et Femina. Idem pour Maria Pourchet et son roman Feu, chez Fayard, Goncourt, Renaudot et Prix Décembre, entre autres. Et Mohamed Sarr aussi, plutôt sous les radars jusqu'à maintenant, son roman chez Philippe Rey, La plus secrète histoire des hommes, est en lice pour le Goncourt, le Renaudot, le Femina, le Médicis et le Prix Décembre. Des sélections à l'image de cette rentrée littéraire très ouverte, très fraîche, qui met en valeur de nouvelles plumes.
Nicolas Caro. Un mot de football, deux victoires et deux matchs nuls. Julien, le bilan des clubs français pour leur entrée en Europa League et en Europa League Conférence, Lyon et Monaco se sont imposés. Match nul pour Marseille et Rennes.
Merci Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Direction Vincennes ce soir pour un Quintet qui réunira 16 trotteurs âgés de 6 à 9 ans, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres. Et pour bâtir mon pronostic, j'ai privilégié les plus jeunes, les 6 ans, avec les numéros 12, Falcao de Chenu et 7, Fosbury. Classé dans cet ordre, aux deux premières places le 7 août sur l'hippodrome d'Anguin, mais aussi Furioso Beach, le numéro 4, irréprochable lors de ses 4 dernières courses, en totalisant 2 victoires et 2 accessites, et Fred Duguerret, le numéro 3, qui traverse lui aussi une grande période de forme. Enfin, les numéros 16, Duc de Cristal, 9, Dexter Blue, 5, Emir Sly et 10, Coucou J'arrive, ne sont pas incapables, eux aussi, de conclure dans les 5 premiers à une cote spéculative. Mon pronostic, 12, 7, 4, 3, 16, 9, 5 et 10.
Pronostic à retrouver sur europe1.fr dès maintenant. Merci beaucoup Thierry Léger et à lundi. Il est 5h39, bon vendredi. Les 38e journées du patrimoine se tiendront ce week-end partout en France. On en parle dans un instant avec notre monsieur patrimoine, notre monsieur monument, Stéphane Bern. À tout de suite.
Blin Roche et Julien Pierce. Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h40 sur Europe 1 et ce week-end se tiendront les 38e journées européennes du patrimoine. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les trésors de notre pays. On en parle avec celui que vous écoutez tous les jours sur Europe 1 entre 16h et 18h dans Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël. C'est à lui que le président de la République a confié il y a 4 ans la mission patrimoine. Vous l'avez compris, Stéphane Bern est notre invité.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mylène Roche.
Est-ce que les Français ont conservé un attachement pour leur passé, selon vous ?
Plus que jamais, je crois que dans ces moments de grande incertitude, les Français se rattachent à leurs racines, à leur identité, ce qui fait leur identité, c'est-à-dire le patrimoine. Mais le patrimoine, ce n'est pas que des vieilles pierres, c'est aussi des bâtiments industriels, des lieux de pouvoir, des maisons d'écrivains, des maisons d'illustres. Et puis ce petit patrimoine vernaculaire, ce petit patrimoine de nos campagnes qui plaît tant aux gens. Donc oui, je crois que les Français ont eu un attachement pour les journées européennes du patrimoine.
Oui, vous le dites, hein, le patrimoine français, ce n'est pas forcément un édifice monumental. Hein. On peut prendre comme exemple les murs de pêche de Montreuil. Ce sont des jardins qui étaient menacés par des projets d'urbanisation. Il y a plein d'autres exemples comme ça partout en France.
Oui, ce n'est pas vraiment des monuments, ce sont des sites patrimoniaux. Au fond, c'est de la culture, de l'art et de l'histoire à portée de main. Et c'est ce qu'on oublie. Et c'est souvent gratuit, parce que même les églises sont ouvertes. Hein. Il suffit d'ouvrir la porte et d'avoir comme ça un émerveillement. Alors, il y a le côté religieux, bien sûr, mais au-delà, il y a le côté simplement amateur d'art. Et en fait, j'ai autant d'affection pour les grands monuments, les palais Versailles, Chambord, Fontainebleau et d'autres, ou Compiègne, mais il y a aussi ce petit patrimoine de proximité, les fours à pain, les lavoirs, les fontaines, qui me parlent tout autant de l'histoire de France.
Le loto du patrimoine, le jeu lancé par la mission Bern est de retour ce mois de septembre, dernier tirage d'ailleurs demain. En 3 ans, avec la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux, vous avez récolté 130 millions d'euros et vous avez sauvé 300 monuments. Le loto, il faut le rappeler, est une contribution volontaire. Donc pour vous, ce succès, ça veut dire que l'élan citoyen est présent. Les Français se sentent concernés et ils jouent pour sauver leur patrimoine.
Oui, les Français jouent, grattent ou jouent. Mais il y a chaque année environ 118 sites qui sont retenus. Vous avez raison, on a déjà récolté 130 millions d'euros en 3 ans pour sauver 300 monuments. Au total, nous avons 600 monuments à sauver déjà depuis 4 ans et sur les 4000 qui nous ont été proposés et d'autres se proposent chaque année sur le site www.missionberne.fr. Ce qui pour moi est important, ce n'est pas seulement de les sauver avec l'argent du loto. C'est ludique, un ticket sur 3 est gagnant. Donc en fait, on sait que c'est la part de l'État qui va au patrimoine. Mais c'est surtout que les Français se sont appropriés cette croisade pour sauver le patrimoine. Auparavant, après la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Américains qui venaient nous sauver en finançant Versailles ou d'autres monuments. Maintenant, c'est à nous de nous sauver nous-mêmes en sauvant notre patrimoine. Parce que ça fait travailler derrière les vieilles pierres. Vous savez, il y a des gens, des femmes et des hommes qui construisent ce patrimoine, qui mettent leur savoir-faire et leur excellence. Les couvreurs, les tailleurs de pierre, les marbriers, tous ces gens ont du travail grâce à la mission patrimoine.
Et là, grâce au loto du patrimoine, 100 nouveaux sites en péril vont pouvoir en bénéficier. J'imagine, vous l'avez dit, 4000 demandes, les appels à l'aide affluent. Comment vous faites pour faire un choix ?
Pour faire un choix, on a 4 critères de sélection. D'abord, c'est l'état de péril. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une urgence. Ensuite, il faut que le budget soit bouclé, que le projet soit mûr. C'est-à-dire, on sait que le loto du patrimoine sert de levier pour ensuite avoir des financements et les crédits du département, de la région ou de l'Europe. Enfin, il y a un projet de valorisation. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de restaurer un château si c'est pour tous les châteaux ne sont pas destinés à être visités comme Versailles. Il faut qu'il y ait un vrai projet. Certains couvents sont restaurés eh bien, pour faire des centres d'accueil pour les enfants handicapés, pour les autistes. On reste dans la charité, dans le caritatif et l'humanitaire. Et puis, dernier critère, le quatrième, c'est l'impact économique sur le territoire. Il faut vraiment faire œuvre utile, je crois. Donc, pour montrer d'ailleurs aux Français, maintenant, on publie cette année les photos avant-après pour montrer que sauver le patrimoine, ben, se sauver nous-mêmes et sauver notre économie dans les campagnes. Je vais vous dire, le dernier facteur d'égalité entre les villes et les campagnes, c'est le patrimoine, puisque 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Alors qu'il n'y a plus grand-chose dans nos campagnes, on a encore cette richesse, c'est l'histoire et le patrimoine.
Vous serez où ce week-end, Stéphane Bern, pendant ces journées du patrimoine ?
Eh bien, je vais continuer mon tour de France pour remettre les chèques de la mission Bern. Hier, c'était avec le président de la République à Illiers-Combray, c'était dans la Beauce, en Eure-et-Loire. Je serai samedi matin dans la Sarthe, dans les Pays de la Loire, pour remettre le chèque au château de Haubuisson, à Chéréau. Ensuite, je donne une conférence sur le patrimoine de nos villages dans le petit village de Frazé, en Eure-et-Loire. Et puis, je serai dans mon collège royal et militaire de Thiron-Gardais, samedi dimanche, pour accueillir le public, parce que le public vient nombreux et nous ouvrons gracieusement, gratuitement pour tout le public qui vient nous voir en général assez nombreux depuis que j'ai ouvert ce monument en 2016.
Merci beaucoup Stéphane Bern, je vous souhaite de très bonnes journées du patrimoine qui auront lieu tout ce week-end. Et je Merci rappelle qu'on vous retrouve tout à l'heure avec Mathieu Noël dans Historiquement Vôtre entre 16h et 18h sur Europe 1. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et avant d'aller dans le Perche à Thiron-Gardais rencontrer Stéphane Bern dans son collège royal et militaire, on va se réserver à 5h46 un réveil royal et solaire en musique.
Avec la prescription culture de Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Ambline.
Alors vous nous faites voyager ce matin ?
Exactement, du côté de l'Afrique de l'Ouest avec Lubiana, une jeune artiste belgo-camerounaise qui est une des révélations musicales de cette rentrée. Elle vient de sortir Beloved, son premier album. Elle a une voix très soul, très solaire. Elle est auteure, compositeur et c'est l'une des rares femmes à jouer de la kora dans le monde puisque cet instrument est traditionnellement réservé aux hommes. On écoute Lubiana. You gave me life tonight in ways you don't notice. I know this love and right, this feeling. Lubiana est bruxelloise, elle a 27 ans, elle a été bercée par les voix de Nina Simone et de Laurie Neal, ça s'entend. Elle s'est nourrie aussi de ses nombreux voyages et de sa double culture pour créer une musique qui lui ressemble. Ses messages sont dans l'air du temps, l'amour, la bienveillance, l'estime de soi, le partage, les racines. Elle mélange des sonorités pop, jazz, parfois électro, aux notes de la kora. Écoutez ce qu'elle nous dit sur cet instrument au micro d'Europe 1.
Alors, la kora, comme on est en radio, je vais faire la petite visualisation. C'est un fruit rond, c'est une calebasse qui est coupée en deux. Et puis devant, on a une sorte de peau qui le recouvre et puis un énorme manche avec des cordes accrochées qui sont un peu parallèles. Voilà, c'est très visuel. Et les cordes sont des cordes de pêche, c'est un instrument organique qui est fait d'un fruit. Tout est organique et c'est un instrument surtout qui a une âme, parce que c'est l'instrument des griots qui sont les magiciens, les conteurs d'Afrique de l'Ouest et qui est porteur de leur histoire, de leur culture. C'est un instrument magique.
Donc les joueurs de kora, ce sont des griots ?
C'est bien ça, exactement. Dans la culture africaine, les griots, ce sont des conteurs dont la mission dans la société est de transmettre l'histoire, car il s'agit d'une tradition orale. Et pour être transmise, ben, la musique, elle ne s'écrit pas, elle ne se chante pas, elle s'écoute. C'est ce qu'on fait ce matin sur Europe 1. On écoute Ljubljana. L'artiste raconte avoir eu une révélation il y a 6 ans avec l'instrument. Elle a d'abord rencontré la cora dans ses rêves, avant d'être happée par ses notes lors d'un voyage en Espagne. Elle ira ensuite à l'école de cora au Sénégal, où elle rencontre Ablaye Sissoko, l'artiste référence de l'instrument. Il y a l'un de nos chanteurs pop qui était déjà tombé sous le charme de la cora et de cette culture, c'est Mathieu Chédid, qui a notamment produit un album entier en hommage au Mali, réalisé avec ses amis Toumani Diabaté et son fils. On écoute un extrait du bijou Mani Toumani sur Europe 1. L'album de Ljubljana s'appelle Beloved et il est disponible partout.
Merci beaucoup Stéphanie Loire. Et on vous retrouve lundi soir dans Musique sur Europe 1 entre 20h et 22h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 5h50, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
Le torchon brûle toujours entre la France et les États-Unis 24 heures après la rupture au profit des Américains du contrat du siècle conclu avec l'Australie pour l'achat de 12 sous-marins en 2016. Paris annule un gala à Washington. Naval Group veut une indemnisation et la Chine est en colère. Un plan à la fin du mois pour les 3 millions de chômeurs longue durée. Dans le Parisien, ce matin, la ministre du Travail annonce des financements pour les entreprises qui formeront directement les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an. Le TGV fête ses 40 ans. La SNCF célèbre cet anniversaire aujourd'hui avec Emmanuel Macron, gare de Lyon. Le président y dévoilera une maquette grandeur nature de la motrice du TGV du futur que la SNCF compte lancer en 2024. Et puis les premiers touristes spatiaux de l'histoire viennent de passer leur première journée en orbite. SpaceX donne de leurs nouvelles. Ils sont en bonne santé, heureux et se reposent tranquillement.
Europe Matin. L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous, dans vos quotidiens régionaux. C'est en France. C'est un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, Julien, nous sommes à Calais.
Bonjour Florent Caffry.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Nord Littoral, où l'on peut lire ce matin un article sur une famille qui a porté plainte après le décès d'une résidente en EHPAD. Racontez-nous.
Eh bien, en fait, nous avons été contactés par les filles d'une dame de 90 ans qui était résidente d'un EHPAD à Calais depuis 3 ans et demi. Et en fait, cette dame est décédée le 4 septembre dernier. Quelques jours plus tôt, elle était dans sa chambre à l'EHPAD où elle faisait couler de l'eau dans sa salle de bain. Et cette dame a chuté et en souhaitant se relever, elle s'est appuyée sur son lavabo qui était rempli d'eau, sauf que l'eau était bouillante. Et donc, cette dame a été brûlée et au deuxième degré, sur ses deux mains. Elle a été emmenée immédiatement au centre hospitalier de Calais avant d'être transférée au centre des grands brûlés de l'hôpital de Lille, où malheureusement, elle est décédée 3 jours plus tard.
Est-ce que le lien a été établi entre ces brûlures et le décès de cette dame âgée, ou c'est justement le sens de cette plainte contre X ?
Le lien n'est pas clairement établi, mais ce qui est sûr pour la famille de la victime, c'est que tout est parti de là. En fait, cette dame a eu un vrai choc psychologique à la suite de cet incident. Il faut imaginer à 90 ans être brûlée sur ses 10 doigts, puis être emmenée dans un premier centre hospitalier, puis un deuxième à 1 heure de là. Évidemment, c'est particulier. Et l'état de cette dame était correct à l'hôpital de Lille, mais d'un seul coup, il s'est rapidement dégradé et puis elle est décédée. Voilà pourquoi ses proches ont décidé de déposer plainte pour aussi tenter d'avoir des réponses sur ce décès aussi rapide et puis faire bouger les choses dans les EHPAD parce que pour eux, il y a eu un dysfonctionnement quelque part et c'est ce que reconnaît notamment la direction de l'hôpital de Calais.
Justement, comment se fait-il que de l'eau bouillante puisse sortir des robinets dans un EHPAD ?
Eh bien, ce que nous a expliqué la direction du centre hospitalier, c'est que à chaque robinet, il existe une bague en plastique au niveau du mitigeur qui permet d'avoir une eau qui est au maximum à 60 degrés. Sauf que là, en l'occurrence, dans la chambre de cette dame, eh bien, la bague avait été enlevée volontairement. Alors, on ne sait pas si c'est lié à un soignant ou à cette résidente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en enlevant cette bague, eh bien, l'eau pouvait atteindre une température bien supérieure à 60 degrés. et provoquer des brûlures très graves. C'est ce qui s'est produit pour cette victime.
C'est d'ailleurs pas uniquement dans cette chambre que cette bague en plastique a été enlevée, d'après l'enquête qui a été menée par le centre hospitalier de Calais.
Exactement, à la suite de cet incident, eh bien, l'ensemble des chambres des résidents ont été vérifiées. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait d'autres bagues qui avaient été enlevées. Du coup, ils les ont remplacées. Mais ça pose question tout de même sur la surveillance dans les EHPAD.
Est-ce qu'une enquête va être ouverte avec cette plainte ?
Une enquête est ouverte. Cette plainte a été déposée contre X pour négligence. Donc il y a une enquête qui sera menée. Évidemment, pour l'instant, l'hôpital ne sait pas si sa responsabilité sera engagée. Seule la suite pourra nous l'indiquer. Mais la démarche, en tout cas, des proches de la victime, ce n'est pas d'aller au tribunal, c'est surtout de faire évoluer les choses pour qu'un tel incident ne se reproduise pas dans d'autres EHPAD, parce qu'on connaît tous forcément une personne qui est dans un EHPAD et on n'a pas envie qu'elle subisse la même chose, évidemment.
On comprend parfaitement les motivations de cette famille. Merci beaucoup, Florent Caffry, de nous avoir fait découvrir cet article à lire donc aujourd'hui dans Nord Littoral. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci, bonne journée, à bientôt. 1, 2, 3, 4.
Bonjour, bon vendredi, il sera ce soir sur la scène du Somum à Grenoble. Christophe Maé et sa joie communicative avec Il y a du soleil sur Europe 1.
Se dessinait une carrière de pâtissier dans la boulangerie de ses parents à Carpentras. Christophe Maé avec Il y a du soleil. Il sera d'ailleurs demain soir en concert au Zénith de Montpellier. Vous nous écoutez sur la fréquence 94.9 en FM.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1, il est 5h57. L'heure, Julien, de faire le point sur le programme de la prochaine demi-heure.
Est-ce que vous savez, Omblin, ce qu'est une class action ?
En bon français, une action collective en justice.
Exactement. Eh bien, c'est ce que lance un avocat qui représente 4000 victimes du changement de formule du Levothyrox. Vous savez, c'est ce médicament indispensable pour des millions de malades de la thyroïde. Le laboratoire Merck a modifié sa composition en 2017 avec, malheureusement, à la clé des dizaines de milliers de personnes victimes d'effets secondaires. Dans le viseur de maître Christophe Leguévac, l'agence du médicament qu'il accuse d'avoir failli dans son rôle de protection des patients. Nous serons en ligne avec lui dans un quart d'heure. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Il fête ses 30 ans aujourd'hui. Le 13 très ambitieux Use Your Illusion, un disque en deux volumes, et qui, ces deux volumes sont parus simultanément. Les Guns N' Roses dans la partition à 6h20.
Ça change de Christophe Maé. La météo avec Anissa Haddadi. Il y a du soleil aujourd'hui ?
Oui, c'est une journée très agréable, une journée lumineuse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas annoncé ce genre de choses en météo, donc on en profite. Je suis très heureuse de vous le dire. Alors attention, tout ça est très sympa, mais il y a une nouvelle dégradation qui arrive quand même demain par l'ouest. Donc si vous habitez entre la Bretagne et le Pays Basque, demain sera une journée grise, humide. Et puis cette dégradation, elle va avancer tout au long du week-end pour toucher finalement toute la France. Bref, on n'en parle pas, on l'oublie juste pour aujourd'hui. Alors ce matin, la journée commence avec pas mal de brouillard. Nous avons du vent aussi sur les côtes méditerranéennes, donc sur le Var, sur les Cap Corse. On a le vent d'ouest qui souffle jusqu'à 70 km/h. Pardon. Cet après-midi, le ciel va se dégager, le soleil s'installe partout, vous le disiez, Julien. Du Cotentin au Pays de la Loire, alors là, c'est un petit peu plus gris, un petit peu plus couvert, avec jusqu'en Gironde et jusqu'au Limousin, un ciel un petit peu plus gris. Et on aura un risque d'averse aussi sur le Finistère. Les températures à 5 heures, nous avions 10 degrés à Auxerre, 11 à Strasbourg, 12 degrés à Nantes, et Lons-le-Saunier, 14 à Paris et Saint-Brieuc, 16 degrés à Montpellier et déjà à 5h, 24 degrés à Calvi. Cet après-midi, 21 degrés à Dunkerque, 22 à Lille, 23 à Paris et 27 pour Bastia et Marseille.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite à tous un très bon réveil. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Guerre froide en mer de Chine. Pékin accuse Washington de relancer la course aux armements après l'accord sur les sous-marins australiens. Un coup dans le dos aussi pour la France. Une scène de guerre hors norme dans ce journal, le témoignage glaçant d'une enquêtrice au procès des attentats du 13 novembre. Et puis, pour les journées du patrimoine ce week-end, on remonte le temps au château de Fontainebleau, résidence officielle de Napoléon Ier. Le palais consacre une exposition à l'empereur. Et le journal de 6h vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Bataille navale et crise transatlantique entre la France et les États-Unis. Washington torpille le contrat du siècle et Paris n'a pas le cœur à la fête. Les autorités françaises annulent un gala prévu ce soir aux États-Unis. Soirée qui devait célébrer l'amitié franco-américaine.
Les États-Unis qui ont donc conclu hier un accord avec le Royaume-Uni pour fournir 8 sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie. Un pacte militaire pour faire face à Pékin.
Et justement, cette alliance irrite fortement la Chine qui dénonce une course aux armements. Un paradoxe pour ce pays qui a lui-même renforcé sa flotte militaire. Les précisions de notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik.
La Chine possède déjà un arsenal impressionnant. 360 navires de combat, c'est plus que la flotte américaine. Pékin dispose notamment de 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et d'une quarantaine de sous-marins d'attaque, dont un prototype furtif ultra secret capable de plonger à 500 mètres de profondeur. Le budget militaire chinois est en constante augmentation et la marine en est une composante stratégique. Dans cette guerre froide des sous-marins nucléaires, la mer de Chine est une zone à haut risque. Alors la perspective de voir des sous-marins australiens épauler la marine américaine fait bondir la Chine. Dans une conférence de presse organisée hier à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé ces pays de provoquer une nouvelle guerre froide.
La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires dégrade gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire.
Et c'est l'Australie qui devrait en payer le prix. L'Australie et la Chine sont à couteau tiré depuis 18 mois. La plupart de ses correspondants de presse ont été expulsés ou ont fui la Chine. Une journaliste et un écrivain australien y sont emprisonnés et accusés d'espionnage. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
130 munitions tirées en à peine 2 minutes et 30 secondes. À 21h26, très précisément, le 13 novembre 2015, le commando meurtrier s'attaque aux terrasses.
13 morts, une soirée d'horreur dont les images ont été diffusées hier au 7e jour du procès. À la barre, cette enquêtrice de la brigade judiciaire, elle est arrivée parmi les premières ce soir-là sur la scène du crime.
On encaisse la nouvelle, enfin voilà, on est un peu tous abrutis. Et après, il faut se préparer et aller faire malheureusement les constatations sur ces scènes qui sont des scènes de guerre, qui sont même pas des scènes de crime comme on a l'habitude de voir, mais qui sont des scènes hors normes en fait. Il faut s'adapter effectivement à la démesure du nombre de victimes. La priorité, c'est identifier les kamikazes. Comme l'enquête avance, donc il y a également des perquisitions, des scellés à examiner pour trouver des traces et indices. Donc en fait, on est toujours dans le, dans l'action. Ça ne s'est pas arrêté le 13 novembre. Donc j'ai 25 ans de police. Oui, c'est la nuit la plus hors norme que j'ai vécue jusqu'ici.
Le témoignage de cette enquêtrice au micro de Gladys Laffitte pour Europe 1. La journée d'audience sera consacrée aujourd'hui à la diffusion des images de la tuerie du Bataclan.
6h03, la suite de votre journal avec le premier tour de la primaire écologiste qui a débuté hier. Et déjà les premiers couacs, accès au scrutin refusé pour une centaine de personnes, des inscriptions en ligne rejetées à tort par l'algorithme.
Et parmi les sujets qui pourraient départager les candidats à la primaire, il y a celui des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc en Bretagne, un champ traîne depuis 10 ans et crispe désormais tous les acteurs. Sandrine Prioul les a rencontrés pour Europe 1.
Il est temps que Paris nous écoute.
L'appel du député Marc Le Fur pour enterrer ce projet de 62 éoliennes en mer qu'il qualifie de plus cher d'Europe, mais certainement moins écolo d'Europe. Un projet qui, hormis les élus écologistes, ne trouve plus vraiment d'avocat. Alors le député des Républicains s'en remet à Emmanuel Macron.
Ce projet, même les études préalables ne sont pas satisfaisantes. On est à quelques mois d'une grande échéance pour notre pays. Ce sujet, il est au niveau du président de la République.
Des éoliennes en pleine zone de pêche à 16 km des côtes, quand les Anglais ont opposé les leurs à 100 km. Des foreuses qui se heurtent à une roche bretonne plus dure que prévu. Certains élus auparavant engagés dans le projet y voient maintenant un gâchis économique. Et pour le pêcheur Grégory Le Droumaguet, c'est un gâchis pour la biodiversité.
On a passé beaucoup de temps et aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même assez tendue dans nos relations avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire. En tant que chargé de concertation sur ce dossier, quand je vois un peu où est-ce qu'on en est, je me dis, bon, il y a vraiment un constat d'échec.
Et alors que l'État observe de très près l'évolution des tensions sur ce dossier, craignant déjà un bras de fer à la bretonne, ici, certains se rappellent que leur dernier combat n'a pas été vain et veulent, après l'abandon du portique écotaxe, l'enterrement de ce projet éolien.
Le reportage de Sandrine Prioul dans la baie de Saint-Brieuc pour Europe 1.
Les journées du patrimoine, c'est ce week-end et parmi les lieux à découvrir, le château de Fontainebleau.
Et ce palais, c'était l'une des résidences de Napoléon Bonaparte. En 2021, année du bicentenaire de sa mort, le château consacre une exposition à l'empereur en partenariat avec Europe 1. Suivez Laure d'Autriche, elle nous ouvre les portes.
Le parquet craque sous les pas. Tous ces couloirs, Napoléon les a empruntés. À Fontainebleau, l'empereur était presque un simple châtelain. Il y a fait 3 séjours d'un mois, explique Jean Vitet, le conservateur en chef au château.
Le château n'avait pas les rigidités des bâtiments parisiens et la solennité des bâtiments parisiens. Il avait l'impression ici, tout en étant au milieu des autres, d'être tranquille chez lui et que tout le monde ne le surveillait pas à chaque instant.
Napoléon n'aime pas les lit solennel. Il fait installer un lit pliant en acier, comme sur le champ de bataille. Et contre l'avis de ses architectes, Percier et Fontaine, l'empereur tient à ce que certains objets dans sa propre chambre restent modestes, ajoute Marie-Christine Labourdette, la présidente du château.
Vous verrez à côté un guéridon extrêmement simple en acajou, sur lequel l'empereur déjeunait et travaillait une partie de la journée. Et quand Fontaine et Percier lui disent « on pourrait peut-être le décorer un tout petit peu », etc., l'empereur lui dit « mais pourquoi faire ? Il est parfaitement bien comme ça ». Et donc cette espèce à la fois de volonté de faste et de simplicité de l'homme est quelque chose que je trouve très touchant.
Le château de Fontainebleau est aussi le lieu où Napoléon abdique en 1814 et où il fait solennellement ses adieux à ses soldats dans la cour du Cheval Blanc.
Une visite guidée signée Laure d'Autriche pour Europe 1. Et cette exposition, vous pourrez la découvrir jusqu'en janvier prochain.
Merci beaucoup Romain Hoquet, on vous retrouve à 7h30.
Il est 6h07, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et la Ligue Europa qui sourit au club français.
Oui, 2 victoires hier soir pour Monaco et Lyon. 2 succès qui embellissent le bilan des clubs français en Coupe d'Europe cette semaine, Jean-François Pérez.
Oui, il aura donc fallu attendre la fin de soirée pour assister aux 2 premières victoires françaises sur la scène continentale. Sous la pluie écossaise, Lyon s'est imposé en toute logique face aux Glasgow Rangers, 2-0, avec notamment un but magnifique de Toko Ekambi et des arrêts de grande classe d'Anthony Lopez en net regain de forme, tout comme l'OL, après un début de saison difficile. Succès également pour le recalé de la Ligue des Champions, Monaco, vainqueur des Autrichiens du Sturm Graz, 1-0. Les 2 autres matchs du jour avaient proposé des scénarios frustrants, notamment pour le 3e club français engagé en Ligue Europa, l'OM, tenu en échec à Moscou par le Lokomotiv, un partout. Les Marseillais qui jouaient à 11 contre 10 ont été rejoints en toute fin de match. Enfin, en Ligue Europa Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe, Rennes est passé tout près d'une grosse performance face à Tottenham. Score final de partout et bilan positif de la semaine. Aucun des 6 clubs français n'a perdu, une rareté ces dernières saisons.
Monaco et Lyon qui prennent la tête de leur groupe. Prochain rendez-vous européen pour les clubs français dans 2 semaines.
Football toujours et la Ligue 1 reprend ses droits ce soir.
Oui, avec un derby de mal classé, les Alsaciens de Strasbourg, 15e, accueillent les Lorrains de Metz, 18e. L'occasion pour les deux équipes de s'éloigner de la zone rouge et de lancer enfin leur saison. Coup d'envoi du match à 21h à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport. A noter aussi ce soir la rentrée des filles de l'équipe de France. Elles se déplacent en Grèce dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Match à 17h avec une nouvelle capitaine, enfin plutôt une revenante. Wendy Renard retrouve le brassard 4 ans après.
En bref, pour finir,
un rugbyman de Pro D2 suspendu pour des insultes racistes. Le demi-mêlé d'Aix, Ludovic Radoslavljevic, a écopé hier de 26 semaines de suspension. Il ne rejouera pas avant le mois de mai. Le Paris Saint-Germain Handball qui rate son entrée en lice en Ligue des Champions. Défaite 34-31 chez les Hongrois de Veszprém. Et puis de la voile pour finir, un Pierre Quiroga remporte la 52e édition de la solitaire du Figaro. À 29 ans, c'est sa première victoire dans la course au large.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons en ligne avec Christophe Leguévac, avocat de plus de 4000 victimes du changement de formule du Levothyrox, médicament indispensable pour des millions de malades de la thyroïde. Il lance une action collective contre l'agence du médicament. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
6h11, bon début de journée en ce vendredi. On s'intéresse maintenant à un médicament dont le changement de formule en 2017 a provoqué des effets secondaires chez des dizaines de milliers de malades de la thyroïde. Il s'agit du Levothyrox et ses patients ont décidé d'attaquer en justice l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. À l'origine, Julien, de cette action collective conjointe, Christophe Leguévac, avocat de plus de 4000 victimes.
Bonjour maître.
Bonjour.
Après avoir fait condamner l'année dernière le laboratoire Merck pour défaut d'information, laboratoire qui produit le Levothyrox et qui s'est d'ailleurs pourvu en cassation, vous vous attaquez désormais à l'État et plus précisément à l'ANSM. Que reprochez-vous dans cette affaire à l'Agence du médicament ?
Dans ce dossier, nous estimons qu'elle a failli à sa mission en ne respectant pas les obligations légales qui sont les siennes. Et parce qu'elle n'a pas su faire son travail, eh bien, des centaines de milliers de malades en 2017 et encore aujourd'hui ont souffert du changement de formule du Levothyrox.
Sur combien de personnes qui prennent ce médicament exactement ?
On estime qu'il y a à peu près entre 2 millions et demi et 3 millions de personnes qui tous les matins à jeun prennent du Levothyrox ou un médicament équivalent à base de levothyroxine. Et comme c'était attendu, il y a à peu près 10% de la population qui n'a pas supporté le changement de formule, ce qui veut dire qu'à peu près 300 000 personnes se sont senties mal en 2017 lorsque Merck a imposé ce changement sans prévenir les malades.
Ces effets secondaires, c'est quoi à peu près ?
Il faut comprendre que la lévothyroxine est une hormone essentielle à la vie et que sans elle, vous êtes complètement à plat. Vous n'avez plus de tonus, votre organisme fonctionne au ralenti et ça peut se traduire de manière anecdotique par des pertes de cheveux, mais surtout par le fait que vous pouvez plus travailler, vous êtes complètement vidé de toute énergie et donc vous avez l'impression d'être devenu une locumène à la charge de vos parents, de vos amis et c'est très difficile à supporter.
Vous accusez donc l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament d'avoir failli à sa mission. Enfin, elle a quand même validé ce changement de formule sur la base d'éléments scientifiques, non ?
Les changements de formule de médicaments à base de levothyroxine, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Il y en a eu à peu près 5 ou 6 dans les 10 dernières années et à chaque fois, quel que soit le pays, quel que soit le fabricant, on a constaté qu'il y avait à peu près 10 à 15% de personnes qui ne supportaient pas ce changement. Eh bien, malgré cela, l'ANSM n'a pris aucune précaution, n'a pas prévenu, n'a pas mis en garde les malades. Ça, c'est la première faute. Et la deuxième faute, c'est que lorsque Merck a remis son fameux dossier de bioéquivalence, elle a pas regardé le dossier, elle a validé la demande d'autorisation de mise sur le marché sans vérifier la teneur exacte des données qui lui étaient transmises. Et ça, c'est gravissime.
L'ANSM a tout de même réagi en 2019 en menant une étude sur plus de 2 millions de patients. Elle en a conclu que le passage à la nouvelle formule n'avait pas engendré, je cite, de problèmes de santé graves. Ça aussi, vous le contestez ?
Écoutez, au pôle santé de Marseille, le juge d'instruction est en train d'enquêter sur des homicides involontaires et il a retenu déjà une douzaine de cas qui paraissent suspects. Donc c'est un peu facile de dire que la pharmacovigilance n'a pas révélé de préjudice grave, alors que la justice est en train de vérifier au moins 12 cas curieux.
Comment vous expliquez cette négligence supposée de la NSM ?
Écoutez, là encore, c'est le juge d'instruction qui nous donnera des informations puisqu'il enquête. Je pense que la NSM n'a pas les outils intellectuels suffisants, les équipes suffisamment formées et la volonté d'affirmer son autorité. Avec déjà ces trois éléments, on peut comprendre pourquoi il y a une répétition des scandales sanitaires en France, que ce soit le Mediator, Androcur, Essure, Dépakine et le Votirox. À chaque fois, la NSM a du retard, ne comprend pas la situation et surtout ne veut pas écouter les malades, surtout si ces malades en plus sont des femmes.
Autre point sur lequel vous attaquez l'agence du médicament, la situation de monopole de Merck avant même le début de cette affaire. En clair, les malades de la thyroïde n'avaient accès qu'à du Levothyrox ?
C'était en effet un point incroyable en France, qui n'avait pas d'équivalent partout en Europe. Merck détenait 100% du marché des comprimés de lévothyroxine, ce qui explique aussi pourquoi la France s'est distinguée des autres pays, c'est-à-dire qu'il y avait un effet plus fort, un effet loupe, du fait de ce monopole détenu par Merck.
Et aujourd'hui, il existe des alternatives pour les malades de la thyroïde ?
En effet, depuis l'automne 2017, sous la pression du ministère de la Santé, des alternatives ont été mises à disposition, je crois qu'il y en a 4 ou 5, qui permettent aux malades qui le souhaitent de tenter de trouver un nouvel équilibre avec des alternatives. Mais certains malades n'arrivent pas, malgré les alternatives qui existent, à trouver, à retrouver plutôt l'équilibre qu'ils avaient. Il faut bien comprendre que le Levothyrox ou les médicaments équivalents, quand on le prend à vie. Et donc, il y avait des malades qui prenaient ce médicament depuis des dizaines d'années. Ils n'avaient aucun problème. Et du jour au lendemain, sans les prévenir, on les a mis devant le fait accompli. Et depuis, ils n'arrivent pas à retrouver un confort de vie normal.
Dernière question. Qu'est-ce que vous espérez obtenir pour les victimes que vous représentez et qui pourraient se joindre à cette action collective que vous menez ?
Donc, l'action collective qui est disponible sur le site myleo.legal vise à demander une indemnisation à la NSM. On demande par requérant 15 000 euros, ce qui est une somme relativement importante, mais c'est aussi un moyen pour faire comprendre à la NSM qu'il faut qu'elle se réveille et qu'elle protège véritablement et efficacement les malades.
Merci beaucoup Christophe Legvac d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'avocat de milliers de victimes de ce changement de formule du Levothyrox et que vous lancez donc une action collectif contre l'Agence nationale de sécurité du médicament. Bonne journée et à bientôt.
Merci, au revoir.
Il est 6h17 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. Les 30 ans de l'album Use Your Illusion 2 des Guns N' Roses dans la partition. A tout de suite.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h20 sur Europe 1. Bon réveil et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les principaux titres de l'actualité, le journal permanent avec Alban Le Prince.
Le clash Washington-Paris continue au lendemain de la rupture du contrat du siècle sur l'achat de 12 sous-marins entre l'Australie et la France au profit des États-Unis. Une décision grave aux conséquences lourdes, critique le Sénat. Une prime de 100 euros net plus 100 euros brut d'augmentation. C'est ce qui attend les sages-femmes travaillant à l'hôpital à partir de janvier, a annoncé Olivier Véran, le ministre de la Santé. Hier. Graphistes, commerciaux, livreurs, les travailleurs indépendants mieux protégés. Leur patrimoine sera insaisissable en cas de défaillance et l'accès à l'assurance chômage élargi, a fait savoir Emmanuel Macron ce jeudi. La première journée des phases de groupe de Ligue Europa. Hier, match nul entre Marseille et le Lokomotiv Moscou. 1-1, 2-0 pour Lyon face aux Rangers de Glasgow. Victoire de Monaco à domicile 1-0 sur Sturm Graz.
On termine avec le meilleur de la meilleure, votre partition Omblin qui nous ramène il y a 30 ans quand les Guns N' Roses sont entrés dans l'histoire du rock en présentant le même jour deux albums monumentaux.
Du jamais vu Julien, et la tactique s'avère payante puisque les ventes des deux volumes atteignent des sommets. Use Your Illusion est un exemple parfait de la démesure dans le rock and roll. 30 chansons en tout, 2h30 de musique, la créativité de la bande d'Axel Rose est à son paroxysme et pourtant, lorsque commencent les sessions en studio, tout porte à croire que les Guns N' Roses sont au bord de l'implosion.
En ce début des années 90, la musique des Guns tourne sur les Walkman des adolescents qui rêvent de rébellion.
Des mauvais garçons agressifs, addicts à la drogue et à l'alcool, mais toujours ultra lookés. Ils lancent la mode du short cycliste porté sur des baskets montantes et un bandana sur cheveux longs. Lors d'un festival de musique caritatif retransmis à la télévision, leur représentation est désastreuse. Les musiciens multiplient les provocations. Héroïnomane, le batteur Steven Adler devient un obstacle. Il est mis sur la touche.
Et malgré une période pour le moins chaotique, le groupe arrive à se retrouver lors de ses séance d'écriture très fructueuse.
Et avec une seule idée en tête, donner une suite au premier disque Appetite for Destruction, Axl Rose et les guitaristes Slash et Izzy Stradlin planchent chacun sur une dizaine de titres et évidemment, ils ont envie de tout garder.
Les Guns N' Roses conservent cette formidable dynamique au moment des enregistrements.
Deux ou trois prises maximum par titre suffisent. Ils sont d'une efficacité redoutable. Les ballades sont déchirantes. Les solos de Slash sur sa guitare Gibson galvanisant. Pour l'épique November Rain, avec son orchestre symphonique, les Guns s'inspirent d'Elton John et du morceau Don't Let the Sun Go Down on Me. Le groupe s'approprie Live and Let Die des Wings et se mesure à Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door par les Guns N' Roses, extrait du double album Use Your Illusion qui fête ses 30 ans aujourd'hui. On retrouve le titre précisément sur le volume 2, hein, vous savez celui avec la pochette bleue, l'autre c'est la pochette jaune. Le groupe s'apprêterait à dévoiler un nouveau titre et ils seront le 25 juin 2022 à l'affiche du Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique.
Merci Omblin, il sera peut-être au Hellfest en juin prochain.
Peut-être.
En attendant, Dimitri Pavlenko va entrer dans ce studio dans un instant pour nous informer jusqu'à 9h. À tout de suite sur Europe 1.